Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe pour cette première partie remplie de joie, n'est-ce pas? Je vais vous parler de tristesse alors. Je vais parler de la mort. Qui est prêt à mourir ce matin? Personne? Eh bien, vous venez de chanter « Je veux habiter dans ta maison ». Plus près de toi, mon Dieu, je veux être, n'est-ce pas? Alors, je répète ma question, qui veut mourir ce matin? Ouais, nous perdons mort, hein? Hein? Mourir pour Christ. Mais si Christ vient là, il frappe et il dit, c'est moi, viens. Ma question restera même, sommes-nous prêts pour ce grand jour? Ah, ça c'est différent. Alors je ne dis pas sommes-nous, je dis es-tu prêt? Que c'est à chacun de voir, hein? Si Christ te dit viens là, parce que la mort est mal élevée, hein? La mort n'a pas de carte de visite, hein? Vous savez ça? Mais oui, mais vous connaissez les chrétiens qui disent, ah oui, mais toi tu parles négativement, faut pas parler de ça, c'est tabou. Pourtant la Bible parle hein, de la mort, n'est-ce pas? Et chacun ici présent ce matin devrait un jour s'y pencher et dire, est-ce que je suis prêt, vraiment? Et on doit être prêt. Parce que la mort n'a pas de sentiment, elle frappe petits et grands. Et tous ces derniers temps, vous regardez les images à la télé ou sur les réseaux sociaux, là vous êtes, il n'y a pas un événement qui ne parle pas de mort. Partout sur la surface de la Terre, quand ce n'est pas une vague de chaleur, c'est inondation, c'est catastrophe naturelle, et, et les enfants aussi meurent. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tant de catastrophes? Pardon. Pourquoi tant d'événements? Et on devient, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous voyez plein de gens qui s'autoproclament prophètes. Et ils ont tous un message des derniers temps. C'est à boire et à manger, hein. Et on se dit, mais finalement, serions-nous dans les derniers temps? 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul nous disait déjà, dans la version de la colombe, pour ceux qui l'ont, mais je la préfère. Il nous faut comprendre les textes et extirper, j'ai envie de dire, le vrai du faux, souvent. Dans ce que nous entendons autour de nous. Parce qu'on peut se demander, mais c'est quand a commencé cette période? Il est dit, sache que dans les derniers jours, derniers temps, ça dépend des versions, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien. Et il continue au verset 4, traître. Vous connaissez? Il traite. Impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. S'il y a un événement que nous risquons de rater, j'ai envie de dire, parce que tellement occupés ou préoccupés dans ces temps par les actualités, par les fêtes de Noël, par les lendemains qui chantent et qui déchantent, parce que ça s'agite, ça chauffe, c'est bien le retour du Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes prêts? La question reste la même. Hein? Suis-je prêt pour le retour du Seigneur? Et si tu n'es pas prêt, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et c'est là que Jésus nous laisse des signes avant-coureurs, parce qu'il dit brusquement, je serai là. Ce bientôt dans l'Apocalypse, sa valeur de brusquement, je serai là. Est-ce que la terre, quand elle se met à bouger, nous avertit? Non. Est-ce que le voleur, avant de passer, il nous avertit? Non. Jésus dit brusquement, je serai là. Au son de la trompette. Et ça risque de surprendre même les aigus. Et c'est comme la mort. Tu pars le matin chez toi. Est-ce que tu sais si tu vas arriver au travail ou est-ce que tu vas retourner chez toi le soir? Personne ne sait. Et personne ne sait de quoi tu es mort. Personne ne sait où tu es. Et la police ne s'affole pas, mais non, elle a fugué, elle a juste 40 ans. Il faut attendre 48 heures. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons et Dieu nous invite à être vigilants. Il nous laisse plein d'appels dans sa parole. Premier signe ce matin, appel au discernement, à la vigilance et à la repentance. C'est le plan, parce que s'il fallait voir tous les appels que Dieu nous laisse, on a au moins pour un trimestre. Mais dans ce texte, nous n'avons pas besoin de lunettes pour constater, discerner que nous vivons des temps difficiles, n'est-ce pas? Quand nous lisons dans Romains, dans 1 Corinthiens, dans Pierre, les dons que Dieu a délivrés à son Église, le discernement en fait partie. Or, Dieu, par son Esprit Saint, distribue selon ce qu'il veut, selon lui. Donc, le discernement n'est pas donné à tout le monde. D'accord avec moi? Et le discernement nous permet de voir avec les yeux de Dieu. Vous comprenez bien ce que je dis, parce que nous sommes là avec nos yeux humains et nous jugeons, nous discernons et nous sommes sûrs de ce que nous disons. Parce que j'ai vu. Et parce que c'est ce que la télé montre. La télé nous montre ce qu'elle a envie. Parce qu'ils font toujours, les journalistes font toujours un tri. Et Dieu nous invite à juger, à voir les choses en face. C'est ce que la Bible appelle discerner. Voir les choses en face et juger ce qui est bon de ce qui est faux. Et des fake news, nous en avons tous les jours. Avec la technologie, on peut faire ce qu'on veut avec les images et dire ce qu'on veut, faire croire ce qu'on veut. Mais Jésus ne nous trompe pas dans sa parole quand il dit que les temps seront difficiles. Et c'est difficile pour certains un peu partout. Si vous regardez, prenez une map monde, globe, vous partez l'Afrique, en Somalie, depuis des années, on parle de la souffrance, de la famine, et personne n'en parle. Vous allez en Haïti, tout près, des années qu'il y a la violence, mais ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? On va en Ukraine plutôt, ou bien dans la zone de Gaza. Et là, il y a des gens qui nous intéressent. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi? Il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes, il y a des vieillards. Et la France aussi, dans le nord, Pas-de-Calais, et à l'est, à l'ouest, dans le sud, on les pieds dans l'eau. Et de plus en plus, nous, quand je parle de temps difficile, il n'est pas question de prix à la hausse, puisque nous cherchons toujours les prix baissés bas. Vous les connaissez, ces gens-là? Vous en faites partie? Parce que la vie est difficile. Et il y a ici idée de trouble plutôt, idée d'agitation, de stress. Et quelque part, la Bible nous invite à regarder vraiment les choses en face et puis à ne pas croire tout ce qu'on nous fait croire pour nous séduire. C'est de l'illusion. Et il y a une différence entre illusion et réalité. Et nous sommes dans la réalité. N'est-ce pas? Allô? D'accord. Et l'idée ici, c'est il y a des temps difficiles, mais les temps sont rendus difficiles par qui? Par les hommes. Et c'est ça l'idée. Une traduction dit, la période finale de l'histoire de ce monde sera une période périlleuse et troublée. La période finale de l'histoire sera dans ce monde sera une période périlleuse et troublée. Les temps sont difficiles, alors qu'est-ce qu'on entend par là? Posons-nous des questions, c'est quoi les derniers jours, c'est quoi les derniers temps? Et souvent on dit, ah oui, mais ça fait longtemps que ça a commencé. Oui, mais quand? Quand Jésus parle, quand Paul parle, qu'est-ce qu'ils entendent par les derniers temps? Est-ce que ça a commencé depuis la Pentecôte? Que depuis la Pentecôte, ça a commencé difficile, hein? Et puis il y a eu des guerres. 14, 18, et puis 45, mais des guerres, il y a toujours eu, jusqu'à maintenant d'ailleurs. L'Ukraine, l'Afrique, Haïti, tout le temps il y a des guerres. Et de génération après génération, il y a un, comment on peut l'appeler, un Hitler qui sort de terre et puis qui massacre et puis qui fait ce qu'il veut. Laissez-moi vous dire que tous ces gens-là, Hitler, Poutine, Bachar al-Assad et compagnie, c'est des enfants de cœur. Parce que quand on regarde l'Ancien Testament, c'est des génocides, c'est des massacres aussi. Hein. Et si vous n'êtes pas accroché, vous fermez la Bible, vous dites, mais non, c'est pas bon Dieu qui fait ça. C'est pas un Dieu bon qui fait ça. Parce qu'il tolère certaines choses et même il commande certaines choses. Passez au fil de l'épée. Pourquoi? Dieu est en colère. Il est en colère contre une population, contre un peuple qui donne sa gloire à des divinités. Alors que Dieu dit, je suis votre Dieu trois fois saint. Et vous serez un peuple saint. Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même ou pas? Et pourtant Dieu dit, aimez vos ennemis. Si on te frappe sur une joue, présente l'autre. Vous avez déjà fait ça ici? Au contraire, vous retroussez les manches. Dieu dit, si on te demande de faire un kilomètre, fais-en deux. C'est pas de la faiblesse. C'est la force. Mais Paul ici fait allusion, quand il parle de gens de temps difficiles, il fait allusion pour parler d'animaux sauvages, dangereux, indomptables. Nous sommes en face d'une situation dangereuse, difficile, provoquée par la peur que provoquent les hommes. Et il dit égoïste, impulsif, blasphémateur, cruel, ennemi des gens de bien, et il parle d'ingénieux au mal. On utilise la technologie pour faire le mal. Vous avez vu les drones là, ça aide, mais les drones peuvent aussi être utilisés comme des armes. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout, et c'est l'homme qui est derrière tout ça. Discerner. Et parfois, quand vous regardez ces gens, on dit, mais fou, ils sont pas tout seuls, hein. Ils sont démoniaques, ces gens-là, diaboliques de fonctionner comme ça. Non? Vous les avez en face de vous, vous regardez les yeux, vous dites, ouh, moi je peux faire m'enfuir, hein. Ils sont diaboliques. Et on se demande, mais dans quel monde dépravé on vit? Les temps seront difficiles. Les temps sont difficiles. On est en plein dedans. On est dans la gadoue. Hein? Et on tourne le regard vers Dieu. On se dit, Seigneur, mais c'est quoi ces gens-là? Ils vivent comme des bêtes. Et on vit dans une résidence. On vit dans un quartier. On ne connaît même pas ceux qui y habitent parce qu'on préfère ne pas les connaître. Non? Quand on les voit, on se dit, tout le monde sait. Guerrier. On veut être plus costaud, plus fort que l'autre. Et si on regarde l'autre en face, pourquoi tu me regardes comme ça, frère? Oui, parce que finalement, tout est dans le regard. On est devenu impulsif. Mais on l'était déjà. Mais il suffit juste de piquer un petit peu et puis on se dit, est-ce que nous sommes différents, nous, chrétiens? Une jeune sœur m'a dit une fois, pasteur, gratte un tout petit peu, tu verras qui nous sommes. Gratte un petit peu. Tu me cherches, tu me trouves. Et quand on regarde bien la situation ici, c'est quoi le péché fondamental? Ni Dieu, ni maître. Or, les deux grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et celui qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Oh, on est égoïste, orgueilleux, blasphémateur, impulsif, tout ce que vous voulez, implacable, insensible, calomniateur, sacrilège, rebelle à leurs parents. Ça n'existe pas ici, hein? Quoi que j'ai peur de vous le dire, ça existe. Parce que c'est une société qui est comme ça. Et on a beau dire, mais honnêtement, l'amour du plus grand nombre, comme dit la Bible, c'est pas à Créteil, hein. C'est dans toutes nos communautés, dans toutes nos vies, au travail, partout, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On trouve de plus en plus de familles divisées. Peut-être pas la vôtre, mais la mienne. Longtemps qu'elle est divisée. Pourtant, on est témoin de Jéhovah, catholique, évangélique, dans la même famille. Où on va? Les gens sont difficiles parce que nous avons rendu les temps difficiles, ou les temps sont difficiles parce que les gens sont devenus divisés. On ne sait pas. J'aime à dire que l'homme déforme l'homme. Et souvent, j'ai dit, ça, on m'a dit, non, faut pas dire ça. J'ai dit, mais oui, mais tu vas finir par penser comme moi. L'homme te forme et il te déforme. Grâce à Dieu, le Saint-Esprit nous transforme. En bien. Si nous nous laissons transformer. Mais Jésus nous avait déjà mis en garde. Hein? Satan y est pour quelque chose. Il joue un rôle prépondérant dans tout cela. Orgueilleux, il est, et c'est ce que ça veut dire. Rebelle à toute autorité, vous savez ce que ça veut dire aussi. Impulsif, vous parlez à votre enfant et puis il est déjà campé devant vous. Ouais, wesh. Là où on respectait les autorités avant, vous vous souvenez des petites jeeps, la verte ou bleue, je sais plus, qui passaient, on disait, hey, gendarme. Aujourd'hui, on n'a plus peur de ça. Les maires des communes et des villes se font gifler par les abonnés. Plus d'autorité, plus de respect. Et M. Macron a dit cette semaine, la semaine dernière, à la conférence des maires, au congrès des maires, je ne sais pas comment ils appellent ça, il invite les maires à la sécurité, à mettre plus de sécurité, 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 et surtout, plus de soumission aux valeurs de la République. Il dit, avec ça, tu vas changer le monde. Dieu nous a donné d'autres conseils. Honore ton père, c'est alors que tu réussiras dans la vie, c'est alors que tu vivras longtemps. Aime ton prochain comme toi-même, c'est pas des commandements avec plus de valeur, mais puisque tu me fais ça, mais je te fais ça. Et on se sent bien. Et la Bible nous invite à veiller sur cela, à veiller sur ce comportement. Les gens ont changé, nous changeons et nous ne nous rendons même pas compte. Parce que c'est comme ça. Et nous faisons de la plupart du temps comme les autruches. J'ai vu, j'ai pas vu. J'ai vu, j'ai pas vu. Pourquoi? Parce que ça m'est égal, insensible, indifférent. Nous sommes devenus un petit peu sur les bords. Mais cette façon-là, nous devons veiller à ce qu'elle n'atteigne pas comme une gangrène l'Église. Et une contagion peut se répandre et contaminer toute une Église. Parce que nous ne sommes pas vigilants. Et Dieu nous appelle à ce discernement, et ce discernement nous appelle à la vigilance. Nous avons ici un avertissement de Paul qui suit l'Ecclésiaste. Paul dit ici au verset 4, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance ou la force. Ah, c'est la religion. Et l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, disait déjà, vous devez reconnaître, « Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de l'Éternel, pour ne pas rendre un culte, le culte des insensés. Prends garde à ton pied, veille sur toi-même. » Combien nous sommes là à venir ancrés dans la religion parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça. Dieu attend une louange, un sacrifice qui vient du cœur. Et si le cœur n'est pas transformé, mais je vais continuer à être dans le rituel. Le rituel tue. Et je vois le rituel, Dieu aussi. La sentence de l'apôtre Paul, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Par définition, la religion, c'est superstition. On fait des choses sans savoir pourquoi on le fait. Quelqu'un m'a dit une fois, mais obéis sans comprendre. C'est comme ça. Et ma femme me dit souvent, je suis têtu parce que j'aime comprendre avant d'agir. Tu peux m'expliquer, je peux prendre du temps. Prends le temps qu'il faut, mais je veux comprendre. Mais, écouter et obéir vont de pair dans la parole de Dieu. Et cela a été le gros problème d'Israël à l'époque. Et le prophète pouvait dire, il s'écriait, ah, si tu m'écoutais, Israël. Si tu m'écoutais. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de l'Éternel. Combien d'entre nous ont vu leur zèle, ce zèle du premier amour se refroidir avec le temps? Non? Ah, quand on s'était converti, on était chaud, chaud, chaud bouillon. N'est-ce pas? On voulait aller partout chanter, on ne ratait pas une réunion, et puis on priait, et puis on voulait évangéliser le monde. Où est passée cette puissance-là? On s'est laissé refroidir. Moi, le premier. Ah, quand je me suis converti, j'étais zélé. Avec le temps, on prend un tout petit peu de plomb dans les ailes, et puis voilà. On se dit, on est passé de brebis à pigeon. On se fait avoir. Dieu nous invite à fuir les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force d'entendre les gens dire, mais c'est comme ça, et puis, on finit par se dire, mais Dieu est bon. Il tolère tout. Mais lisez l'Ancien Testament, il ne tolère pas tout. Parce qu'il est trois fois saint. Et il dit, vous serez saints. Et quand un père corrige son enfant, c'est parce qu'il aime. Allô? C'est pas pour t'embêter. Je te dis ça parce que je t'aime. Maintenant, il y a correction et correction. Mais Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Ils sont égoïstes, ils sont fanfarons, ils sont blasphémateurs. Éloigne-toi. Comment aujourd'hui on peut nous demander de quitter parents, amis et alliés? Ces gens qu'on aime tant, c'est notre famille. Éloigne-toi de Dieu. Alors, tu obéis à qui en fait? À tes sentiments, parce qu'il ne faut pas juger, il faut être tolérant, oui. Mais Dieu t'a dit, sors. Sors de là. Dieu se moque des moqueurs, parce que les moqueurs se moquent de Dieu. Qui aura raison? Le moqueur ou celui qui est moqué? Je dis qu'il se moque des moqueurs parce qu'il voit le jour arriver. Nous aimons à dire, c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, donc un peu de grâce, un peu de tolérance. Mais le Seigneur nous invite aussi à nous affectionner des choses d'en haut, à chercher les choses d'en haut, à nous écarter de ceux qui nous éloignent de la sanctification. Mais oui, mais Seigneur, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, tu sais, Seigneur. Mais nous devons apprendre à discerner en quel temps nous sommes. Et la parole exige justement, en dépit de mes sentiments, de mes pensées, que je m'éloigne, que je me sépare. L'Église, par définition, c'est être appelé hors de. N'est-ce pas? Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Et je dois ici-bas chercher à savoir qui est mon maître. Je vais aller plus vite. Nous sommes constamment devant des choix difficiles et seuls nous pouvons faire ces choix. Le deuxième appel que j'aimerais aborder ce matin, c'est un appel à la vigilance et je vais l'associer à l'appel à la repentance. La repentance, par définition, c'est un changement de caractère, un changement de comportement. Arrêtons de dire « c'est comme ça que je suis ». C'est comme ça que je parle. Si tu es né de nouveau, tu dois changer. Luc chapitre 13, Évangile de Luc chapitre 13, nous avons deux histoires racontées à Jésus. Ouais, j'ai commencé avec la mort. Je ne suis pas détaché, hein. Je suis comme un certain président. Je garde le cap. Ce jour-là, Luc 13, verset 1er, en ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Mais pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Dans cette première histoire, Jésus est en train de leur dire simplement, « Mais ils n'étaient pas plus coupables que vous. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas à l'abri, que nous sommes à l'abri. Quand la mort passe, elle ne regarde pas si on a un signe sur le front. Hein? Elle frappe enfant, elle n'a pas de rang social, ni d'âge. Elle est mal élevée, je vous l'ai dit ça. Et la mort est au pouvoir du malin, dit la Bible. Quelqu'un a donné une définition de la mort, c'est la dislocation de l'être et de l'âme, du corps. C'est déchirer, c'est faire mal. Oh, Dieu veut précisément nous éviter cela. Jésus semble dire, mais c'est le salaire du péché. C'est la conséquence de nos agissements. Nul n'est à l'abri. Dans le deuxième récit, nous n'avons pas plus d'informations sur l'architecte qui avait conçu la tour, encore moins quelle équipe, quelle entreprise, mais n'a pas tenu debout. Et verset 4, c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et que la tour a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ceux qui sont dans le Pas-de-Calais, ils sont plus mauvais que ceux qui habitent l'île de France, qu'ils aient les pieds dans l'eau, qu'ils ont tout perdu. Ça déchire le cœur, mais ça déchire le cœur pour un moment, parce que nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas au cœur même du problème. Une fois qu'il y a un peu de sourire, on se dit... Tant mieux, ça va mieux. Mais le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes dans des temps difficiles, avec ou sans soleil. Parce que c'est installé là et la création soupire aussi. Est-ce que quand les catastrophes comme ça arrivent, on dit, ah, pas de chance. Tu pars à ton travail le matin et tu ne rentres pas le soir. Ça crée une tension telle que ça peut provoquer des arrêts de cœur. Parce qu'il est parti bien, il n'avait que 15 ans, que 16 ans, le jeune Thomas, qui a été tué, assassiné. Il voulait juste s'amuser à Crépol, là, dans le sud. 16 ans, et on trouve que c'est injuste. Mais la mort ne fait pas le tri. Si vous êtes lecteur régulier de la Bible, lisez l'Ancien Testament, lisez Josué, par exemple, lisez Nombre. Et vous verrez que ces gens-là, ces Israélites, avaient reçu l'ordre de Dieu. Ça tournait à la barbarie, comme ceux qui massacrent les gens dans la Palestine. Là, ils sont frères, hein, ils sont cousins, voire. Ils sortent tous d'Égypte. Issus d'un même père. Vous n'avez jamais vu des fratricides, des frères qui tuent. Je connais ça dans ma famille. Pas ma famille, dans le quartier où j'habitais plutôt. Ils étaient jumeaux. Mais tu m'énerves. Poum. Frères jumeaux. C'est pas Caïn et Abel seulement, hein. Mais c'est depuis la Genèse que le mal trace et va croissant. Et nous n'avons pas fini de voir. Nous sommes choqués, mais nous vivons dedans. Nous vivons avec. Et Jésus semble dire que la mort peut-être n'est pas dans votre programme de vie, mais puisque la vie est brève, sois vigilant et reprends-toi pendant que les temps. La question du départ s'impose. Où en es-tu face à la mort? Quant à l'éternité? Avec ou sans Dieu, où tu en es? L'apôtre Paul disait, j'ai le désir de m'en aller, en même temps j'ai le désir de rester. Mais il avait une cause noble. Il voulait rester pour évangéliser sa famille, son peuple. Mais il dit, c'est de loin préférable d'être avec le Seigneur. Et si aujourd'hui, j'ai pas trop envie, ça veut dire que tu as encore un problème à régler avec toi-même. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le conseil qui est donné dans la Bible. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ce changement de cœur, ce changement de mentalité, es-tu vraiment né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu vois déjà le ciel. Allô? Si tu es né de nouveau, ta vie ne s'arrête pas ici-bas, elle continue. Tu as la tête non pas dans les nuages, mais dans le ciel. Et parce que tu as les deux pieds sur terre, tu es dans une situation difficile, mais tu es déjà assis en Christ. Est-ce qu'il y a des changements dans ta vie? Si oui, tu es né de nouveau. Sinon, eh bien, revois ta copie. Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. J'aime à dire, Dieu ne fait jamais d'erreur. Quand vous étiez en classe, pour certains, vous aviez dicté ou je ne sais pas quoi, vous remettez une copie sans rouge dessus. Je dis, waouh, t'es fort. 20 sur 20. Non? Ah, on dit, on progresse. Mais quand vous voyez des traces rouges là, dis, oula. Il faut encore revoir sa copie. Mais notre vie chrétienne, c'est tous les jours qu'il faut la revoir. Non? C'est tous les jours qu'il nous faut voir et revoir. Dans Actes 17, versets 30 et 31, Paul est arrivé à Athènes et il a trouvé des gens tellement religieux. Et on s'est dit, la religion, c'est parfois la superstition, c'est dans des rituels qu'on s'enlise. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que vous soyez aussi religieux. À telle ancienne, vous avez une statue et vous savez même pas. C'est qui? C'est quel Dieu? Dieu n'est pas sous forme d'idole. Dieu est esprit. Et versets 30 et 31, Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. À changer de mentalité, à changer de conduite, à changer de manière de penser. Parce qu'il a fixé un jour, et ce jour vient, mes amis. Nous sommes plus près du retour du Christ. Jour avec un grand J. Ce jour vient où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Vous connaissez combien qui soit revenu de la mort? Un seul. ni Mahomet, ni Confucius, ni Bouddha, ni tous les autres, ils sont morts une fois pour toutes. Jésus est mort pour mes péchés, pour tes péchés, et il est ressuscité pour ma justification. Fort de cela, il m'invite à me repentir et à être prêt pour ce jour-là. Il va revenir. Vous connaissez beaucoup de messages sur le retour du Christ? On prêche moins ça. Même une fois, on m'a dit, ouais, vous prêchez toujours la même chose, Jésus est Seigneur, Jésus est... Oui, il est Seigneur. Et il restera Seigneur. Oui, il est Sauveur, mais il n'est pas forcément Seigneur dans ta vie. Mais il revient. Et ça, personne ne pourra en empêcher. Et aujourd'hui, Dieu nous invite, puisque nous avons des calculatrices, et puis portables, et puis tout ce que vous voulez, le long délai du retour de Christ, que nous qualifions de long, entre guillemets, il est calculé par Dieu, pas par toi. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, il revient. C'est pourquoi j'ai parlé au départ de brutalité, de soudaineté, parce que brusquement il sera là. Et je serai prêt. Le seras-tu? Le serons-nous? Et c'est à chacun de répondre. Mais c'est dans la position cachée en Christ, cachée en Dieu. Dieu montre aux hommes à travers l'histoire que la vie est brève. Un souffle, un son, un murmure. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout, mes amis. Et Dieu nous invite à être vigilants. Pour autant, il ne nous tient pas innocents. Parce qu'il ne fait pas d'erreur. Et quand il dira, entre là, et toi là-bas, je t'ai jamais connu. Ça va être dur, hein? Mais ceux qui seront là ne pourront rien faire pour ceux qui seront là. Parce que la Bible dit, toute bouche sera fermée et tout genou fléchira devant lui. Ce jour vient et Jésus est à la porte et il frappe. Quand vous verrez ces choses, dit Dieu, redressez la tête au lieu de paniquer. Puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, soyons vigilants. Veillons, prions au lieu de basculer dans la peur. Au contraire. Réjouissons-nous, parce que Jésus est à la porte. Non? Que Dieu nous aide, bien-aimés, à faire le bon choix, et si c'est ce matin, tu veux faire le bon choix de te repentir, ne quitte pas cette pièce. Viens nous voir, on va t'aider. Amen? Inclinons-nous et prions. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, pour ta parole, pour... les avertissements et conseils que tu nous laisses. Merci de nous accorder ton amour, ta patience. Tu es fidèle, tu es patient, tu es amour. Et ce que tu veux, c'est que nous soyons prêts au jour de ton retour glorieux. Merci pour Jésus-Christ qui est venu s'identifier à nous, qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité pour notre justification et qui revient pour notre espérance vivante. Gloire te soit rendue en Jésus-Christ et par ton Esprit Saint. Amen.